Des mots pour le dire. Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, que vous soyez sur l'agglomération montpelliéraine ou nîmoise, vous êtes les bienvenus dans des mots pour le dire qui puisent à sa source qu'est le livre de Michel. Bonjour Michel Théron.
Bonjour Edouane.
Donc la théologie buissonnière, c'est ce premier livre que nous avons essoré jusqu'au dernier mot, et puis on attaquait ce deuxième tome que vous d'ailleurs vous êtes mis à écrire, et là on découvre avec vous mot après mot les mots que vous écrivez pour ce futur tome, et vous nous donnez la primeur, vous avez la gentillesse de nous donner la primeur de tout de ce second tome. Et le mot que vous nous proposez aujourd'hui est un mot qui, ma foi, à cause d'une pomme, a créé beaucoup de problèmes. Et chaque fois que le pape se penche sur cette thématique, on va dire qu'il y a des retours de bâton qui sont assez difficiles à gérer pour l'Église catholique. Je veux parler de la sexualité.
Voilà, sexualité. Alors, dans la Bible juive, la sexualité hétérosexuelle n'est pas du tout proscrite et on en fait même l'éloge. Il faut souligner, cependant, qu'elle a pour fin essentielle la procréation. Alors, on sait que Dieu crée, eh bien, l'homme, lui, qui est créé à l'image de Dieu, va imiter son créateur, il va procréer. Ainsi, lorsque Ève devient mère, on peut dire qu'elle co-crée avec Dieu, qu'elle participe à sa propre puissance créatrice. Voici ce qu'on lit en Genèse 4:1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Alors on pourrait s'étonner que le pauvre Adam soit oublié dans la parole d'Ève. En effet, fierté et remerciement d'Ève s'adressent à Dieu seul. Mais on sait que, dès les premiers temps de sa vie sur la terre, l'homme lui-même ne se sentait pas forcément impliqué dans la génération, qui était quelque chose comme un miracle. Aussi, l'homme adorait-il à l'époque préhistorique les déesses mères. Et de ce point de vue, on peut dire que le matriarcat a précédé le patriarcat. Le patriarcat n'est arrivé que lorsque l'homme s'est rendu compte qu'il était pour quelque chose dans la transmission de la vie. De toutes les façons, il y a toujours eu quelques mystères et quelques miracles dans la génération, et le recours à Dieu qu'effectue Ève, « j'ai formé un homme avec l'Éternel », s'explique par là. Tout n'est donc pas maîtrisable en matière de procréation, et le destinal, pourrait-on dire, y a sa part. Autrefois, vous savez, Redouane, lorsqu'un couple attendait un enfant, il disait « Dieu a béni notre union ». On procréait, alors comme on dit en latin, « Deo iuvante », c'est-à-dire avec l'aide de Dieu. Mais on en est loin maintenant, et tout le miraculeux de la naissance disparaît lorsqu'on parle de « faire un enfant ». Vous voyez, c'est un signe des temps. Hein.
Ou comme le chanterait Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule, quoi.
Ah voilà, faire un enfant. Faire un enfant suppose qu'on a une totale maîtrise sur le phénomène de la procréation. Alors, on connaît l'usage du verbe hébreu « connaître » pour signifier « avoir des relations sexuelles avec quelqu'un ». Et on dit bien encore aujourd'hui « connaître » au sens biblique. Chouraki a essayé de rendre à sa façon le double sens du verbe hébreu, sens sexuel et sens cognitif, et chez lui, l'expression « Adam connut Ève, sa femme » devient « Adam pénètre Ève, sa femme ». Et on parle bien chez nous d'un esprit pénétrant, par exemple, pour dire un esprit intelligent. Maintenant, au lecteur de dire, ou à l'auditeur, de dire, s'il trouve la traduction proposée par Chouraki heureuse ou non. Alors, au paradis, Adam et Ève vivaient tout nus, l'un en face de l'autre, et ils n'en avaient point honte. C'est ce que dit Genèse 2:25. Il y avait donc une unité ou une symbiose heureuse, celle-là même qui a inspiré beaucoup plus tard les hérétiques appelés adamites, qui eux aussi vivaient tout nus, hommes et femmes mélangés. Il y avait donc une sexualité heureuse, une béatitude édénique ou paradisiaque, dont les camps de naturistes aujourd'hui, ou bien les vacances Si Sex and Son du Club Méditerranée ne nous donne sans doute qu'une bien pâle imitation. Mais le sentiment de honte et de nudité apparaît dès le chapitre 3 de la Genèse, avec la désobéissance d'Adam et Ève, corrélée à l'apparition du serpent tentateur. En effet, ils vont contrevenir tous les deux à l'ordre divin, et ils vont goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et alors ils ne pourront assumer la responsabilité de leur acte. Leur culpabilité, à mon avis, ne vient que du sentiment même de leur culpabilité, de l'impossibilité où ils se trouvent de supporter eux-mêmes, humainement parlant, ce qu'ils ont fait. En effet, notez bien que dans le texte, Dieu dit à Adam, « Adam, où es-tu ?» Et comme Dieu est omniscient, il sait très bien où est Adam. C'est donc une question à double sens, une mise en situation de responsabilité. Il faut comprendre, « Adam, où en es-tu ? Dis-moi, quel est ton problème ?» Et lorsqu'Adam répond, « Voilà, je me suis découvert nu, j'ai eu peur, je me suis découvert nu », eh bien, il reconnaît qu'il ne peut pas assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. La nudité est une métaphore pour dire l'impuissance. Alors, désormais, le climat va s'assombrir considérablement. Nos deux premiers parents sont chassés du paradis à cause de ce qu'on appelle, je le répète ordinairement, leur désobéissance, et que je préfère, quant à moi, appeler le sentiment de leur propre faiblesse. Et à la fin de Genèse 3, les chérubins à l'épée flamboyante les empêchent désormais, Adam et Ève, de rentrer, de revenir dans le jardin d'Éden. Et dès lors, en monde chrétien et par un mouvement remarquable, ce premier péché, que je mets bien entre guillemets, va perdre progressivement son sens originel, qui était manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc abandonner la bienheureuse inconscience du paradis symbiotique en s'éveillant à la conscience, ce qui est effectivement un processus difficilement assumable d'un strict point de vue humain. Alors la première faute va glisser désormais vers un autre sens, un sens tout à fait différent, un sens lié celui-là à la sexualité. Et à partir de maintenant, c'est la sexualité qui va être généralement associée à la honte et à la culpabilité, et le sens premier de la désobéissance sera oublié, connu seulement peut-être encore de quelques théologiens, mais théologiens qui resteront minoritaires, en tout cas par rapport à ce qu'on va enseigner au peuple. On va enseigner au peuple que la première faute est de nature sexuelle. Ainsi, dans le roman de Zola, La faute de l'abbé Mouret, cette faute, toujours entre guillemets faute, cette faute ecclésiastique, cette faute de l'abbé, qui se produit pourtant dans un jardin symbolique appelé Paradou, donc référence au paradis biblique, n'est une faute que sexuelle, puisque l'abbé Mouret fait l'amour avec Albine dans la deuxième partie, la partie centrale du roman de Zola. Alors, ce glissement de la première faute du fruit de l'arbre de la connaissance à la sexualité s'explique peut-être par le double sens du mot « connaître » que j'ai déjà signalé. Connaître au sens banal, connaître le bien et le mal, et connaître au sens de faire l'amour. Alors, quant à la fameuse pomme, Redouane, vous en avez parlé, elle n'existe évidemment pas dans le texte. Elle vient d'une homologie qui a été faite à partir du latin de la Vulgate, entre malum le mal et maalum la pomme. Malum le mal a un A bref, et maalum la pomme a un A long, c'est l'équivalent du grec mélos. Donc c'est purement fortuit. Dans le Moyen-Orient, il n'y a pas de pommiers. C'est pas la... ou pas beaucoup, en tout cas, c'est pas la Normandie, Redouane.
Non, non, et puis il n'est jamais question dans le texte biblique même de pommes.
Ah non, absolument pas, c'est un fruit, c'est un fruit.
Mais enfin, c'est un coup publicitaire pour Macintosh.
Ah oui, oui, peut-être, peut-être. Alors en tout cas, après la catastrophe de Genèse 3, c'est dès le début du chapitre suivant, au début de Genèse 4, qu'Adam va connaître Ève, c'est-à-dire faire l'amour avec elle. Donc le premier acte sexuel intervient après la catastrophe de la faute et donc ne peut être que contaminé et noirci par la première faute. Ainsi pour Genèse 4.1, on lit chez nous « Adam connut Ève, sa femme, etc. » Donc dans la Septante, vous avez Egnou, dans la Vulgate, vous avez Cognoui, c'est-à-dire que là, vous avez un aoriste et là, vous avez un parfait, donc c'est quelque chose de ponctuel. Et il y a donc bien entre Genèse 3 et Genèse 4 une succession chronologique, donc implicitement un rapport de causalité par voie de conséquence, consécution, par proximité ou contagion. Genèse 3 parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse et la catastrophe qui s'ensuit, Genèse 4, Adam et Ève font l'amour, donc on dit, eh bien voilà, c'est le climat s'est assombri. Mais c'est uniquement chez nous. Je viens de dire exprès chez nous. Parce qu'en milieu juif, on comprend différemment. Ainsi peut-on lire dans la Bible du rabbinat français, édition Kolbo 1994, page 5, « Or l'homme s'était uni à Ève, sa femme ». Autrement dit, ce qu'on appelle l'acte de chair, l'acte sexuel, s'était déjà produit avant qu'Adam et Ève n'aient commis leur faute et n'aient été chassés du paradis. Et donc cet acte sexuel n'a pu en être marqué ou influencé en aucune façon. Alors, on sait qu'en hébreu, les temps ont un régime très différent que celui qu'ils ont en grec ou en latin, et cette traduction, l'homme s'était uni à Ève, est sans doute possible aux hébraïsants de nous le dire. Et il est possible aussi, puisqu'il s'agit de la Bible du rabbinat français, que cette traduction soit polémique et soit dirigée contre la culpabilisation que 2000 ans de christianisme ont affectée à la sexualité.
Au début de sa carrière de PDG, le mec des mecs dit « Je vais mouler un gus pour jouer à la belote coinchée ». Mais au bout de quelques temps, le jeune Adam qui était beau mec lui dit « Bon Dieu de pétard, puis les gonzesses t'y a pas pensé ». Dieu lui dit alors « Ça c'est un peu fort ». Je t'en donne comme ceci, dit-il, montrant avec son doigt. Et tu en veux comme cela, dit-il, en mesurant son bras. Va te foutre au pajot, morveux, v'là mon pied au d'argent. Mais Dieu qui était pas chien et qui se faisait tartir un brin, pendant que l'autre ronflait, lui pique un os dans les côtelettes, et moulant la petite Ève, lui fit un joli pétrousquin. Mais Adam dit merdouille, une seule nénette, c'est pas la fête. Dieu lui dit alors, ça c'est un peu fort. Je t'en donne comme ceci, dit-il, montrant avec son doigt. Et tu en veux comme cela, dit-il, en mesurant son bras. L'autre, la mine penaude, lui dit, j'attendrai Madame Claude. Quand Ève bigla Adam à poil comme une pièce de 5 francs, elle dit au grand daron, votre Superman, c'est pas le beau Serge, et s'il y a vraiment que ces zig pour ensemencer tout le continent, c'est pas pour vous chabler, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Dieu lui dit alors, ça c'est un peu fort. Je t'en donne comme ceci, dit-il, montrant avec son doigt. Et tu en veux comme cela, dit-il, en mesurant son bras. De toute façon, t'as le temps, la pilule, c'est que dans 10 000 ans. Mais Dieu qui était bon mec leur fit un petit jardin de banlieue, plein d'arbres à pot-au-feu, de scaroles et de baba au rhum. Quant aux pommiers, dit-il, faut la repigner qu'avec les yeux. Mais Ève lui dit, ma cache, mais zic, je suis dingue des tartes aux pommes. Dieu lui dit alors, ça c'est un peu fort. Je t'en donne comme ceci, dit-il, montrant avec son doigt. Et tu en veux comme cela, dit-il, en mesurant son bras. Tu es vraiment trop bête, ma belle, je vais te filer du diabète. Et cependant que Dieu faisait le ménage dans sa carrée, un vieux serpent leur chanstiqua un petit chausson aux pommes, et 10 kilos de compote qui les a même pas écœurés. Mais pendant le pouce-café, on les appela au bigophone. Dieu leur dit alors, ça c'est un peu fort. Je vous donne comme ceci, dit-il, montrant avec son doigt. Et vous voulez cela, dit-il, en mesurant son bras. Vous l'aurez dans le dos, ça sera métro boulot dodo. Et c'est depuis ce temps-là que le grand barbu nous fait la gueule. Adam chez Citroën se bat pour la 5e semaine. Ève fait des manifs à l'université de Vincennes. Because le nucléaire et l'arséniate dans les Golden. Dieu, pour plus de sang, tu pourrais faire un petit effort.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du réseau FM Plus, hein, que ce soit sur l'agglomération Montpellier-Rennes 91 FM ou 103.1 sur Nîmes, des mots pour le dire avec Michel Théron. Et nous venons d'entendre Michel Pierre Perret. Alors là, vous nous avez habitués à des chants beaucoup plus classiques, et là, tout d'un coup, vous nous emmenez sur vraiment des chemins de traverse avec Perret.
Plus austère et auguste, dirait-on. Oui, c'est une chanson dans le style de Pierre Perret, on peut très bien admettre et tout à fait l'humour et la familiarité même. Hein. Mais quand même, Pierre Perret, parlant de la pomme, parlant de la pilule, par exemple, je crois qu'elle parle de la pilule, eh bien, traite le thème de la première faute avec dans une problématique sexuelle, enfin, une problématique uniquement
populaire.
Sexuelle.
Hein? Populaire.
Populaire, voilà. C'est ce qu'est devenu chez nous la doxa chrétienne banale, l'opinion courante, la doxa, celle qui est véhiculée par le catéchisme, aussi peut-être par la peinture, les tableaux, etc., Ève présentant Adam, etc., la fameuse pomme. En fait, le sens initial est tout différent. Alors, j'ai dit que la sexualité n'était pas condamnée en judaïsme, c'est évident. Néanmoins, elle est étroitement encadrée. Et d'abord, elle est toujours liée à la vie sociale. On lit en Genèse 2:18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », ce qui va justifier la création d'Ève. Hein. Liée à la vie sociale, eh bien, la sexualité va être soumise aux injonctions et à la pression transcendante du groupe sur l'individu. Et que veut un groupe, sinon au moins persévérer dans son être, et si faire se peut, s'accroître le plus possible. C'est un programme social tout à fait conscient. En monde juif, traditionnellement, la fécondité du couple est regardée comme la valeur essentielle à laquelle tout le reste est subordonné. Un célibataire est mal vu dans ce monde-là, et il y a des marieuses qui sont là pour obvier justement à l'état de célibataire. Je pense à un film comme « Mariage tardif » de Dover Khochatshvili qui est sorti en 2001. Et on peut aussi répudier sa femme si elle est stérile, ou même simplement si on pense qu'elle l'est. Alors, c'est un film dont nous avons souvent parlé tous les deux, Redouane, c'est le film d'Amos Gitai, qui s'appelle Kadosh, qui est sorti en 1999, qui nous présente ce cas. Alors, heureusement, et je me demande s'il faut dire heureusement, la Bible indique que, dans ce cas, la polygamie pourrait résoudre la situation.
Et je pense qu'effectivement, vous faites bien de dire heureusement, parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, de nos temps, dans les sociétés où la polygamie n'existe pas, par exemple en Afrique, dans certains pays, on peut choisir le régime de mariage, monogame ou polygame. Et dans le cas où l'homme choisit, enfin le couple choisit un mariage monogame, et il se trouve que la femme est stérile, généralement ça aboutit sur le divorce. Et la marginalisation de la femme. Alors que dans le cadre d'une société polygame, la femme qui est stérile accepte qu'il y ait une deuxième épouse, une co-épouse, et parfois même dans certaines sociétés du Togo par exemple, c'est elle qui va se marier, qui va choisir, c'est-à-dire, et les enfants de la deuxième épouse porteront le nom de la première
femme. Voilà, c'est ce qui s'est produit dans le chapitre 16 de la Genèse, à propos de Sarah. Sarah ne pouvait d'abord avoir d'enfants, et donc elle était stérile, et elle pousse Abraham dans les bras et le lit d'Agar, sa servante égyptienne. Hein. Et la suite d'ailleurs est peu glorieuse pour les protagonistes, parce que d'abord Sarah est l'objet d'un miracle, hein. Elle donne naissance justement à un enfant, d'où jalousie entre les deux fils, hein. Et lorsque Abraham, une fois opéré le miracle de la maternité de Sarah, chasse Agar et son fils Ismaël dans le désert, on peut dire que cela n'est guère à son honneur. Alors, heureusement, polygamie, je ne sais pas, vous avez beaucoup de familiarité avec les usages autres que les nôtres, plus que moi, hein, Redouane.
Oui, c'est une question, disons, du statut familial, et le statut familial d'une société à l'autre, même si elle est christianisée ou pas, est très différent. Il y a la famille, le noyau, le papa, la maman et un ou deux ou trois enfants, et puis la famille élargie dans certaines sociétés.
Voilà. Alors, en monde juif, et ce n'est pas étonnant, il y a une injonction majeure qui est conserver la race. Hein. Et cette injonction est si forte que le tabou même de l'inceste n'y résiste pas. Ainsi, les deux filles de Lot, après la destruction de Sodome, hein, pour satisfaire expressément à cette injonction de conserver la race, enivrent leur père, couchent avec lui et en deviennent enceintes. C'est Genèse 19, 30, 38. Et voici même, en guise de discours biblique édifiant, ce que dit la sœur aînée à sa cadette. Elle dit « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Genèse 19, 31, 32. Hein. Et c'est bien ce que font les deux sœurs tour à tour. D'abord la sœur aînée, et ensuite, la sœur cadette et Lot étant enivrée, ne se rend compte de rien. Alors, les deux sœurs contreviennent évidemment à l'injonction majeure qui prohibe tout inceste que l'on trouve dans le Deutéronome, Deutéronome 22, 30. Nul ne soulèvera la couverture de son père. Et toujours dans l'obligation de perpétuer la race, il y avait en Israël un usage, l'usage du Lévirat, c'est-à-dire l'usage de la nécessité pour une veuve sans enfant de se remarier avec son beau-frère. Le mot vient du latin lewir, legewir, beau-frère, vous voyez. Donc une veuve sans enfant devait se soumettre à cet usage. Et il est un personnage très connu qui se refusa à cet usage, c'est le fameux Onan. Voici ce qu'on lit en Genèse 38, 8, 10. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Et alors c'est de là que vient, c'est de ce personnage d'Onan, que vient notre mot d'onanisme pour dire la masturbation. Et on voit que cet auto-érotisme n'est pas du goût de Dieu qui réagit de façon bien expéditive. Hein. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors, l'homosexualité, elle est bien condamnée dans tel ou tel passage de la Bible, mais parfois au prix d'une prostitution. Par exemple, lorsque Lot veut dissuader les sodomites de s'y livrer, il leur offre à consommer ses deux filles vierges. Genèse 19, 5, 8. Alors, vous voyez, Redouane, l'autre jour, j'ai entendu à la radio une dame qui disait que l'enseignement des religions, aujourd'hui, pourrait permettre à des jeunes désorientés d'avoir enfin un contact avec des valeurs. Bon, moi, je veux bien, mais je ne suis pas sûr qu'il faille conseiller à tous ces jeunes désorientés de lire le tout des textes sacrés, ou tous les textes sacrés.
Oui, effectivement, parce que souvent, lorsqu'on dit cela, on pense à la Bible comme un code moral, et que la Bible est plus qu'un code moral, la Bible porte en elle une épaisseur de vie, d'expérience de la réalité humaine, qui est parfois une réalité barbare, qui est une réalité difficile, violente, et en même temps des signes d'espérance. Et c'est une manière de penser que Dieu a cessé de parler, alors que Dieu continue à parler. Et je veux dire, lorsqu'on regarde notre monde aujourd'hui, avec ce qu'il a de beau et de laid, d'humain et de barbare, c'est aussi des pages qui s'inscrivent dans l'histoire humaine en relation avec sa spiritualité, ses convictions religieuses.
Tout à fait, et je pense que vous en conviendrez avec moi, la Bible, à l'inverse de ce que dit le mot, qui est un singulier, ce n'est pas un livre, hein, c'est une bibliothèque.
Tout à fait.
Une bibliothèque. Tout à fait. Donc il y a peut-être à faire des choix dans ces livres. Certains doivent aujourd'hui nous parler plus que d'autres, hein, me semble-t-il. Hein.
Ou disons que les livres anciens doivent... C'est comme quand on regarde dans le rétroviseur, c'est-à-dire on regarde ce qui s'est passé, on est le fruit d'un passé qu'on ne peut pas ignorer. On est comme dans des strates, mais que si on conduit sa voiture qu'en regardant son rétroviseur, il est certain qu'on n'ira pas loin.
Absolument. Il y a par exemple les livres législatifs dont je vais parler là, hein, qui peut-être sont à revisiter. Hein. Alors, la sexualité dans ses manifestations élémentaires, a des rapports troubles avec le sacré. On peut bien la célébrer d'un côté, mais de l'autre côté, on va la subordonner, ainsi que je l'ai dit, à la procréation. Et aussi, comme elle véhicule ce qu'on appelait autrefois en médecine des humeurs corporelles, comme le sang, le sperme, dans lesquelles la vie elle-même est prise, on va y trouver l'ambivalence propre à tout ce qu'on valorise et redoute à la fois. Et ça, c'est la définition même du sacré. Sacer, en latin, veut dire mis à part, béni et maudit à la fois. Alors, pour les prescriptions législatives, il y a des innombrables règlements de pureté énumérés dans ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. Par exemple, pendant ces règles, la femme est déclarée impure et ne peut accéder au temple ou au culte. Lévitique 15, 19, 30. Pareillement, à la naissance d'un enfant, la femme doit se purifier, mais là, le temps où elle demeure impure dépend du sexe de l'enfant. Voici ce qu'on lit en Lévitique 12, 2, 5. « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Et si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Il en est de même pour l'homme qui a des pertes séminales, comme dit le texte, Lévitique 15, 16. Enfin, je dirais, pour faire bonne mesure et pour généraliser, c'est l'acte sexuel lui-même qui peut être vu comme impur parce que contradictoire avec la pureté nécessaire pour participer au culte. Voici ce qu'on lit en Lévitique 15, 18. « Quand une femme a eu des relations sexuelles avec un homme, ils doivent se laver à l'eau et ils sont impurs jusqu'au soir. » Sur ce verset, je ferai d'abord 2 remarques. La présentation de ce verset semble jeter la suspicion sur la femme qui est nommée avant l'homme et qui semble par conséquent prendre l'initiative de l'acte. On lit en effet « quand une femme a eu des relations sexuelles avec un homme, ils sont impurs », etc. Et cela est conforme à la malédiction qui est proférée par Dieu à l'adresse d'Ève. « C'est tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ». Genèse 3, 16.
Alors, je ferai juste un bémol, je dirais pas c'est Dieu, mais nous rapporte la Genèse, on met dans la bouche de Dieu, parce que malheureusement, la lecture littérale a donné des fondamentalismes barbares.
Absolument, absolument, absolument. En second lieu, je dirais, et en général, on peut bien vanter la sexualité à cause de son objet, qui est la procréation, mais on refuse donc de la célébrer en tant que telle. En somme, on pourrait dire, en exagérant un peu bien sûr, que l'acte n'est rien dans ce cas-là, c'est uniquement son but qui compte, et ce but est la procréation. Alors nous avons souvent parlé de Kadosh, hein, Redouane, de ce film, où alors on voit une affreuse nuit de noces. La nuit de noces, c'est un viol perpétré après maintes prières de la part d'un juif pieux, vous voyez. Bon. Alors, dans ce monde-là, il ne viendrait à l'idée de personne de distinguer, comme moi j'aime le faire, dans la sexualité, 2 choses. Il y a d'abord sa fonction biologique ou animale, qui est l'instinct génésique. Et ensuite, il y a, et là j'y tiens, sa fonction purement humaine, qu'elle peut revêtir, qui est ce que j'appellerais la fonction érotique. Cette fonction est coupée de l'instinct pur, et donc elle est définalisée, et elle a rapport, alors je dirais, à l'art. Il y a bel et bien un art d'aimer, qu'Ovide lui-même n'a pas épuisé. L'art d'aimer, c'est un livre d'Ovide, mais d'autres auteurs qu'Ovide peuvent bien en écrire, des arts d'aimer. Et vous savez que l'art, selon l'adage latin connu, c'est toujours l'homme ajouté à la nature, homo additus naturae. Vous voyez, donc je pense qu'il faut bien distinguer ces 2 aspects. Mais quand on ne considère que le premier, à la limite, il y a là une régression à l'animalité, au simple rut, hein, dont le but subi, alors, c'est la reproduction. Or, il ne faut pas oublier ce mot de Beaumarchais que j'aime toujours à citer. « Boire sans soif et faire l'amour en toute saison sont les 2 seules choses qui nous distinguent des bêtes ». Alors, la Bible condamne aussi pêle-mêle la zoophilie. Par exemple, dans l'Exode 22, 19, on lit « Quiconque couche avec une bête sera puni de mort ». Même chose pour l'adultère, hein, voyez, Deutéronome 22, 22. « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. » tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Et si une jeune fille vierge fiancée est victime d'un viol, deux cas se présentent. Premier cas, si la chose a eu lieu dans la ville, comme dit le texte, la jeune fille et son violeur seront lapidés à mort, car la jeune fille n'a pas crié, sinon on l'aurait entendu dans la ville. Mais si la chose a eu lieu dans les champs, comme dit le texte, seul le violeur sera mis à mort, car la jeune fille aurait pu crier, mais il aurait très bien pu se faire qu'il ne se soit trouvé personne pour l'entendre. Dans les champs, hein. C'est Deutéronome 22, 23, 27. Alors, je me demande pourquoi il a fallu mettre tant de subtilités ergoteuses et casuistiques, hein, chaque cas est épluché, au service de tant de barbarie, vous voyez. Alors, vous m'objecterez, ou les auditeurs m'objecteront, des textes où la sexualité est vantée sans limite, comme par exemple le Cantique des Cantiques. Et c'est vrai que il y a dans le Cantique des Cantiques un éloge de la chair. Hein. Ce n'est pas sûrement un livre seulement symbolique, malgré ce qu'un christianisme pudibond continue d'affirmer. Cependant, et là c'est un thème qui m'est cher, que j'ai développé dans mon livre « Comprendre la culture générale », il peut y avoir dans un milieu, d'un côté des représentations qui sont très flatteuses, hein, représentation par exemple de la sexualité, et à côté des mœurs qui sont tout à fait barbares. Cela n'est pas propre au monde juif d'ailleurs. En islam aussi, il y a d'un côté une idéalisation sentimentale de la femme, voyez le kitsch des chansons d'amour, voyez le sinéloukoum égyptien, etc. Et à côté de cela, des mœurs qui n'ont rien de galant. Vous voyez, alors peut-être que le sexe a toujours fait peur alors aux hommes en fait. Hein. J'invite les auditeurs à lire le livre de Pascal Quignard, « Le sexe et l'effroi », qui est paru chez Gallimard en 1994. Le sexe est, pour l'homme, une fascination médusante devant un inconnu dont on redoute qu'il puisse nous anéantir, qu'il puisse engloutir en nous ce à quoi les hommes apparemment tiennent le plus, la conscience et le contrôle.
Les dragons de vertu n'en prennent pas ombrage. Si j'avais eu l'honneur de commander à bord du Titanic, quand il a fait naufrage, j'aurais crié les femmes adultères d'abord. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, car pour combler les vœux, calmer la fièvre ardente du pauvre solitaire qui n'est pas de bois. Nul n'est comparable à l'épouse inconstante, femme de chef de garde, c'est vous la fleur des pois. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, quant à vous mes seigneurs, aimez à votre guise, en ce qui me concerne, ayant un jour compris qu'une femme adultère est plus qu'une autre exquise, je cherche mon bonheur à l'ombre des maris. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, à l'ombre des maris, mais cela va sans dire, pas n'importe lesquels, je les trie, les choisis. Si Madame Dupont d'aventure m'attire, il faut que par surcroît Dupont me plaise aussi. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, il convient que le bougre est une bonne poire, sinon me ravisant je détale à grands pas, car je suis difficile et me refuse à boire dans le verre d'un monsieur qui ne me revient pas. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, ils sont loin mes débuts, ou manquant de pratique, sur des femmes de flics, je m'y m'en dévolu. Je n'étais pas encore ouvert à l'esthétique, cette faute de goût, je ne la commets plus. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, oui, je suis tatillon,
pointilleux, mais j'estime que le mari doit être un gentleman complet. Car on finit tous deux par devenir intimes, à force de se passer le relais. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, mais si l'on tombe, hélas, sur des maris infâmes, certains sont si courtois, si bons, si chaleureux, que même après avoir cessé d'aimer leur femme, on fait encore semblant uniquement pour eux. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, c'est mon cas ces temps-ci, je suis triste, malade, quand je dois faire honneur à certaines pécores. Mais son mari et moi, c'est Oreste et Pylade, et pour garder l'ami, je la cajole encore. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, non contente de me déplaire, elle me trompe, et les jours où furieux voulant tout mettre à bas, je crie, la coupe est pleine, il est temps que je rompe, le mari me supplie, non, ne me quittez pas. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, et je restais tous deux. Ensemble on se flagorne, moi je lui dis c'est vous mon cocu préféré. Il me réplique alors, entre toutes mes cornes, celle que je vous dois mon cher me sont sacrées. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, et je restais parfois, lorsque cette pimbèche s'attarde en compagnie de son nouvel amant. Que la nurse s'est sortie, le mari à la pêche, c'est moi pauvre de moi qui garde les enfants. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère.
Toujours à l'écoute du réseau FM+, avec des mots pour le dire, Michel Théron donc, qui nous propose aujourd'hui le mot « sexualité ». Et justement, aussi, vous avez proposé non seulement le mot, mais les, après Pierre Perret, Brassens, qui dans sa chanson « Ma foi », soulève aussi cet aspect barbare de la loi lévitique, qui est la lapidation.
Voilà, « À l'ombre des maris », c'est une chanson de Georges Brassens, qui s'appuie sur tout l'héritage judéo-chrétien sur lequel nous vivons. Par exemple, jeter la pierre, c'est la lapidation de la femme adultère. Les textes de Brassens sont des textes d'une haute culture. Il n'est pas sûr qu'un regard vierge de toute culture puisse y entrer. Et alors, effectivement, il y a, avec beaucoup d'humour, un refus de cet usage barbare de la lapidation. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Alors, un dernier point, le dernier point de l'émission, va concerner le christianisme. J'ai parlé du monde juif. Qu'en est-il du traitement de la sexualité en christianisme ? Alors, parfois le christianisme valorise, à l'inverse de sa source juive, la virginité et la continence. Certains des textes chrétiens ne sont pas exempts d'ancratisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ancratisme ? Ancratisme vient du grec ankrateia qui veut dire continence. Cela s'explique sans doute parce que les temps du début en monde chrétien étaient considérés comme les derniers temps. On vivait dans un climat d'imminence eschatologique. Ta eschata en grec veut dire les derniers temps. Et dans ce climat-là, la procréation, la reproduction, dont aucune société ne peut se passer quand elle se projette sur la durée, eh bien, n'avait pas d'importance, puisque la nouvelle venue ou parousie du Christ était considérée comme très proche. Ainsi, on lit chez Paul, 1er épître aux Corinthiens 7:31, « Le temps, au kairos, est compté, et il faut que ceux qui usent du monde annusent comme n'annusant pas, car la figure de ce monde passe. » Vous voyez ? Et c'est comme cela, sans doute, qu'il faut expliquer la célèbre parole prêtée à Jésus concernant les eunuques. On lit en Matthieu 19:12, « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. C'est parce qu'on sentait ce royaume des cieux comme très proche que l'on a pu justifier cette castration. Alors, bien entendu, cette castration doit être prise de façon symbolique. Je pense au pauvre Origène qui, nous dit-on, se châtra volontairement en ayant lu cette parole de Matthieu et en l'apprenant littéralement. Alors, mais bien sûr, une fois que le climat d'imminence eschatologique des premiers temps a disparu, on a pu voir dans cette parole sur les eunuques, que l'on a alors décontextualisée, une justification du célibat volontaire des moines et des prêtres, au moins des prêtres en monde latin, puisque je pense qu'en monde orthodoxe, les prêtres, le pope, lui, est marié. Il faut bien distinguer le prêtre et l'évêque, hein. Bon, cette parole, nous dit-on, a pu ne pas choquer dans la bouche de Jésus parce que, cette parole sur les eunuques, était un écho de la pratique du célibat chez les Esséniens. Et on sait qu'en milieu juif traditionnel, un rabbin est toujours marié. À moins aussi que cette parole, qui n'a aucun équivalent, par exemple, dans l'évangile selon Thomas, qui pourtant est fort hostile au monde, et à ce qu'on y trouve, hein, à moins que cette parole ait été mise dans la bouche de Jésus précisément pour opérer cette justification du célibat.
Mais on retrouve surtout dans les écrits de Paul, en fait, cette évolution, parce que véritablement dans les quatre évangiles, à part l'extrait dont vous avez parlé, cette idéologie du célibat, c'était une manière de précipiter la venue du royaume.
C'est possible, c'est possible. À cet égard, il faudrait distinguer célibat et chasteté. Hein. Si finalement l'Église a promu le célibat, c'est pour des raisons moins morales ou théologiques que bassement économiques. En effet, il s'agissait d'éviter un mariage qui pouvait aboutir à la dissipation ou à la dispersion d'un héritage. Et si le premier, le célibat, s'est imposé comme règle chez nous, hein, au monde occidental, la seconde, la chasteté, n'a pas toujours été respectée. On sait assez que si nos papes furent célibataires, certains furent loin d'être chastes. Alors, s'agissant des prêtres, l'Église catholique a fixé l'âge de 40 ans comme âge minimum pour être servante chez un ecclésiastique. Et est-ce que vous savez, Redouane, d'où vient l'expression « l'âge canonique » ?
Non, mais...
Eh bien, figurez-vous que c'est cet âge-là. Hein. L'âge canonique, c'est l'âge de 40 ans, âge minimum pour être servante chez un ecclésiastique. Alors, je me demande s'il s'agissait de mettre l'infortuné curé à l'abri des tentations féminines, ou simplement de lui éviter la paternité avec une femme n'étant plus en âge de procréer. Aujourd'hui, ça a changé. Je pense que 40 ans, c'est une date qui a été, c'est une limite qui a été reculée. Hein. L'expression âge canonique, en tout cas, aujourd'hui, s'emploie pour désigner un âge bien plus avancé. Alors, la valorisation chrétienne de la virginité, elle se trouve évidemment dans la personne de Marie. Hein. Elle a l'inconvénient de valoriser seulement la procréation et la maternité. Donc, de concerner seulement une partie du destin féminin, procréation et maternité, au détriment de l'autre partie, qui est l'épanouissement sexuel. Puisque Marie est devenue mère sans qu'aucun homme l'ait touchée, on a bien disjoint, justement, maternité et plaisir. Et à partir de là, on comprend qu'il n'est pas pensable pour la psyché masculine, surtout en pays latin, moi je suis personnellement méditerranéen et je sens fortement ce thème, hein, que la mère, alors la mère avec un M majuscule qu'on sacralise, hein, ait pu être ou soit encore une femme, capable d'éprouver plaisir et désir, vous voyez. Alors, cette disjonction, à mon avis, elle est dommageable quand même, c'est une disjonction fâcheuse. Même si, de notre côté, alors j'ai pu, dans un livre qui s'appelle « Les deux visages de Dieu » qui est épuisé, qui est paru chez Albin Michel, mais qui reparaîtra chez Goliath, hein, j'ai essayé de réhabiliter Marie la Vierge. Dans le sens où elle aurait eu une prudence, je ne dis pas un refus complet de la sexualité, mais une prudence symbolique qu'elle pourrait incarner vis-à-vis de ces deux notions de plaisir et de désir, prudence dont on a bien besoin aujourd'hui en période dite de libération sexuelle. Alors, les textes canoniques posent, vous en parliez Redouane, les évangiles canoniques, ils posent comme horizon souhaitable la différence des sexes. Car à la résurrection, les hommes ne prennent point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, 30. Bon, alors, est-ce qu'il s'agit de réalisation d'une androgynie primitive de l'être humain ? C'est possible. Voyez l'émission précédemment réalisée sur hommes et femmes. Alors, pour Paul, en tout cas, la différence des sexes a disparu au même titre que toute autre caractérisation avec la venue du Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Épître aux Galates 3, 28. Le sens, c'est que la participation commune à l'humanité dépasse la sexuation. Et il me semble difficile d'être opposé à cela. Alors précisément, c'est l'ouverture du cœur que Jésus manifeste dans tout l'évangile et qui s'oppose radicalement à tout l'encadrement normatif et restrictif de la sexualité dont j'ai donné des exemples en commençant cette émission. Les codes, les lois et les règles de pureté éclatent complètement dans le message de Jésus. Et c'est ainsi que l'on peut comprendre la parole. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, Matthieu 21, 31. Ce sont donc les êtres les plus méprisés par les bien-pensants, les professeurs de morale, les collecteurs d'impôts, les publicains et les filles de joie, qui sont peut-être les plus capables de repentir, donc de régénération. Alors, où est la pureté ? Les pharisiens disaient, ce que dit l'évangile, dans l'observance rigoureuse des lois et interdits, ou au contraire, comme le dit Jésus, dans la disposition intérieure, dans le regard qui oriente la conduite, par exemple. Il y a des regards de convoitise qui équivalent déjà à la faute. Voici ce qu'on lit en Matthieu 5, 28. « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors il n'y a plus désormais aucune raison de lapider l'adultère de fait, puisque chacun d'entre nous peut le commettre en convoitant simplement. Et c'est pour ça que Jean, dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle » Jean 8, 7, vous voyez. Alors l'acte n'est rien, l'acte sexuel n'est rien, sans le contexte qui lui donne sens, sans l'intention qu'il infléchit tantôt dans telle direction et tantôt dans la direction opposée. On lit en Marc 7, 15, « Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Alors ce texte, on l'attribue la plupart du temps aux prescriptions alimentaires, mais on peut l'appliquer aussi à celles qui concernent la vie sexuelle. Ce qui sort de l'homme, alors ce sont les regards, les paroles, les gestes qui peuvent ou bien valoriser et flatter quand ils sont pleins d'attention, ou bien humilier et rejeter au néant celui ou celle à qui ils sont adressés. Par exemple, l'amour sans amour. Alors que la loi juive, bien trop souvent, ne considérait que l'acte lui-même, Jésus prend en compte les contextes, les entours, les intentions. Rien n'est impur pour qui est pur. La morale christique est donc une morale de l'intention. On pense à ce que dit Augustin, « Diligé et fac quoduis, aime et fais ce que tu veux ». Alors, bien sûr, il faut bien marquer qu'il y a là une ouverture, qu'il y a une main tendue, mais non pas un laxisme. Paul dit très bien aux Corinthiens, « Tout m'est permis, mais tout ne convient pas ». 1 Épître aux Corinthiens 6, 12. Parce que Corinthe était une ville aux mœurs dissolues, où tout le monde rêvait d'aller sans pouvoir le faire. On disait « non licet omnibus adire Corinthum ». Il n'est pas permis à tout le monde d'aller à Corinthe. Et même Jésus, dans l'évangile de Jean, dit à la femme adultère « va et ne pêche plus ». Donc il n'y a pas de laxisme, il y a main tendue. Et alors pour terminer, je dirais qu'il est dommage que les héritiers de Jésus, ou ceux qui se donnent pour tels, ne lui aient pas été fidèles sur ce point. Et s'agissant de la sexualité, l'Église, surtout catholique il me semble, a élaboré toute une morale rigide dont maintes prescriptions ressemblent par leur minutie à leurs antécédents juifs. Le but essentiel, c'est la préservation de la vie à tout prix, c'est le natalisme de la Genèse. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, Genèse 1, 28, et cela sous-tend toute la morale sexuelle catholique. Il y a un refus inconditionnel et par principe de la contraception, de l'avortement, au nom du caractère absolument sacré de la vie. et on n'observe pas les cas particuliers, enfants pouvant naître d'un viol ou d'une fillette immature, ou bien surnatalité obérant la vie de maintes familles pauvres du tiers-monde, tout ça on ne le prend pas en compte du tout. Alors je dirais que cette attitude en un sens est rationnelle, puisqu'elle obéit à un principe posé au départ, mais aussi elle est folle parce qu'elle est le fruit d'une psychorigidité totale. Chesterton disait « Le fou est celui qui a tout perdu, sauf la raison ». Le fou raisonne très bien, mais sur des bases fausses. Alors je pense que les églises et les communautés qui veulent encadrer et enserrer les hommes dans un réseau rigide d'injonctions devraient toujours se souvenir que tout change constamment dans la vie, les situations, les repères, les configurations, en sorte que telle solution valable à tel moment ne le sera plus le lendemain. N'oubliez pas le début du Tao Te King de Lao Tzu, la voie vraiment voie n'est pas une voie constante, les termes vraiment termes ne sont pas des termes constants. Et j'ai choisi pour terminer l'émission une chanson d'Eddie Mitchell, pas de boogie-woogie, pour montrer les dangers justement de cette position.
Merci Michel, je vous ai fait presser le pas
oui.
parce que le temps tourne, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous partageons avec vous, sachant très bien qu'il n'est pas question ici de choquer qui que ce soit, mais de partager dans la controverse nos points de vue. Voilà, donc pour aujourd'hui c'était un terme, le mot sexualité qui effectivement est plein de sens et de contresens. Donc merci à vous de nous avoir entraînés sur ce terrain-là de la réflexion. J'espère que vous avez pris plaisir aussi à partager ces 50 minutes avec nous. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les mêmes ondes, 91 FM Montpellier 103.1 à Nîmes. Merci Michel et à bientôt.
Au revoir à tous.
Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Les réactions sur certains visages de l'assistance se reflétaient surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Donc pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Elles sont parties. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton père m'a
fait perdre la fête. J'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le cerf du boogie woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, encore une fois, reprenez avec moi tout son cœur. Pas du boogie woogie avant vos prières du soir.